101.5 FM.
Et vous avez vu l'heure, il est déjà sur Radio G, pile 20h. Je vous souhaite la bonne soirée et bienvenue sur Radio G pour ce nouveau numéro de Quasar on the Air, l'émission de Quasar, le centre lesbien, gay, bi, trans, intersexe et plus, que nous sommes situés à Angers, 15 rue de Jérusalem, et vous pouvez venir nous voir et on va en reparler dans l'agenda dans quelques instants. J'espère que vous avez passé, vous, une bonne semaine, et on ne peut pas commencer cette émission évidemment sans penser et très fortement à tous les Ukrainiens, toutes les Ukrainiennes et tous les LGBTI+ Ukrainiens et Ukrainiennes, trans entre autres, qui ne peuvent évidemment pas nous écouter, mais avec qui nous sommes extrêmement solidaires. Nous verrons dans 15 jours si nous pouvons faire une émission spécialement dédiée à toutes les personnes ukrainiennes, spécifiquement LGBTI, qui souffrent de la guerre aujourd'hui. C'est en préparation. Nous ne pouvons pas vous en dire plus pour l'instant. Parmi l'actualité, il y a aussi la campagne présidentielle. Et là, évidemment, c'est une autre tout à fait musique qui est bien plus compliquée, évidemment. On y reviendra aussi avec toutes les revendications et tous les points que nous portons. Allez, on commence cette émission avec, comme d'habitude, l'agenda. Alors, l'agenda des activités de Quasar, eh bien, il est très simple, cet agenda. Ça consiste en les permanences. Tous les samedis, les 12, 19 et 26 mars, pour ne parler que de mars, de 17h à 19h, vous êtes les bienvenus. C'est une porte d'entrée. Si vous avez des questions, des interrogations, si vous allez super bien, vous venez, vous prenez un café, un thé. Si vous allez super mal, vous venez aussi et on vous reçoit. Et puis auquel cas, on vous réoriente vers les différents pôles de Quasar, qui sont synonymes de commission ou de groupe. Dans l'agenda, vous notez et vous cochez très sérieusement samedi 19 mars. C'est un nouveau numéro de Transat, le groupe de parole par, pour et avec les personnes transgenres, agenres et non-binaires. Samedi 19 mars, de 15h à 19h. Il y aura une réunion plénière du COREVI, le comité de pilotage contre le VIH pour la région, Pays de la Loire, c'est ce que je cherchais. Ça sera le jeudi 24 mars et nous y participerons. Le thème sera Femmes et VIH. Quelques jours après le 8 mars, c'est d'actualité. Et nous parlerons avec Reboot, Nozig, spécifiquement pendant un petit temps de femmes VIH et surtout les femmes transgenres. Nouveau numéro de Quasar on the Air le 24 mars prochain, de 20h à 21h dans 15 jours. Et là, nous verrons quel sera le thème, comme je viens de vous le dire. Et puis, notez tout de suite, le vendredi 25 mars, ce sera une réunion spéciale, une sensibilisation de la part de l'association Contact 49 à Quasar pour toutes les personnes qui veulent se former à l'accueil et à l'écoute des personnes qui viennent nous rendre visite. Donc, contactez-nous si vous voulez y participer. Vous serez évidemment les bienvenus. Nous ouvrons ce 14e numéro de la saison de Quasar on the Air avec un invité au téléphone. Nous l'accueillons tout de suite. Bonsoir Didier Rodbettoni.
Bonsoir.
Bienvenue sur Quasar on the Air. Alors, pour présenter Didier, c'est très simple. C'est un journaliste et un touche-à-tout. Il est auteur, historien du cinéma, spécifiquement spécialiste du cinéma LGBTQI et producteur radio. En même temps, c'est un petit gars de Pontarlier. On n'a pas souvent des gars de Pontarlier au téléphone, donc on en profite.
C'est vrai, ça n'arrive pas souvent.
Eh oui, c'est ce que je notais. Alors, rédacteur en chef du mensuel du cinéma. Et puis alors là, pour un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, Didier, rédacteur des pages culture du magazine Regretté ex-exéco et puis du magazine Illico, qui étaient des magazines papier gratuits, distribués alors à Paris principalement. Et puis il y avait des petits gars qui montaient presque tous les week-ends à Paris et qui repartaient avec des gros paquets pour les distribuer dans leur sac. Je me rappelle bien, c'était bien lourd. Didier, bonjour.
Bonjour.
Alors, on t'a demandé de venir nous rendre visite un peu radiophoniquement pour nous parler d'une œuvre qui est la tienne, qui s'appelle Derek German et Barbara Hammer, une rencontre. Alors c'est un titre oxymore finalement, on va pouvoir expliquer pourquoi. C'est un documentaire qui a été diffusé sur France Culture le 20 février dernier et qui est toujours disponible en podcast. Et il est signé de Didier Roth-Bétoni et de Nathalie Battus. Alors, je disais que c'est un titre oxymore parce que ces deux personnes qui sont des cinéastes et militants queer de la deuxième moitié du XXe siècle ne se sont en réalité certainement jamais rencontrées, mais toi, tu les fais se rencontrer comme un écho queer. Pourquoi cet intérêt par rapport à ces deux cinéastes ?
En fait, au départ, moi, je m'intéresse beaucoup à un des deux, qui est Derek German, qui était un cinéaste effectivement expérimental, puis très militant gay des années 70, 80, 90, jusqu'à sa mort du sida en 1994. Je me suis toujours beaucoup intéressé à son travail, et notamment à la volonté qu'il a eue dans ses films de redonner une dimension homosexuelle à la vie de grands personnages historiques ou culturels, dont cette part homosexuelle avait été très largement gommée par l'histoire officielle. Et puis, au fil de mes recherches sur le cinéma, j'ai rencontré aussi le cinéma de Barbara Hammer, qui de son côté a fait à peu près le même parcours autour des représentations des lesbiennes, de l'invisibilisation des lesbiennes dans la culture et dans l'histoire, et qui elle aussi, à travers ses films, a beaucoup essayé de lutter contre cet oubli-là. Et puis, à l'occasion, on m'a demandé dans un festival il y a quelques années en Suisse de faire une programmation d'un côté de Derek German et de l'autre côté de Barbara Hammer. Et je me suis dit, j'ai vu en programmant leurs deux films, enfin leurs films à l'un et à l'autre, qu'il y avait plein de points de rencontre entre leurs œuvres, que ça n'arrêtait pas de dialoguer sur plein de sujets, au-delà même de ce que j'avais imaginé, puisque c'est des gens qui ont été très militants sur beaucoup de causes tous les deux, qui ont également fait des recherches formelles, qui se sont engagés dans la lutte contre la maladie, lui contre le sida, elle contre le cancer. Enfin voilà, qui ont eu vraiment des dialogues par œuvre interposées, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir à partir d'archives, à partir d'extraits de leur travail, de créer ce dialogue qui n'a jamais eu lieu entre eux réellement.
Alors, dans le documentaire, donc diffusé sur France Culture, on entend la voix et des extraits des différents films et de leurs interviews, et on entend German parler du Caravaggio. Est-ce que tu peux nous citer un peu le point d'accroche de cette affaire-là du Caravaggio, entre autres ?
Oui, donc Derek German a fait en 1986 un film qui s'appelle Caravaggio, qui est consacré au peintre Le Caravage, et il décide de partir des tableaux du Caravage et de la façon dont le Caravage finalement représente notamment des corps d'hommes très érotisés, pour en déduire que le Caravage était gay, ce que l'histoire officielle ne dit jamais. L'histoire officielle dit toujours que Caravage était un très mauvais garçon, ce qui est sans doute vrai, puisqu'il a été quand même accusé de meurtre, qu'il utilisait des prostituées et des garçons des rues dans ses œuvres pour représenter des saints. Mais Derek German, à partir à la fois de témoignages de l'époque, mais surtout à partir des œuvres du Caravage, ramène cette figure à l'homosexualité dont l'histoire officielle l'a complètement exclu. Donc voilà, son film, c'est un film d'une très grande beauté esthétique qui utilise la façon dont le Caravage travaillait la lumière de façon très spécifique dans ses œuvres, et qui donc repart de ses tableaux, utilise l'image de ses tableaux et tire la vie du Caravage vers cette homosexualité qui lui a été dont il a été exclu. Parce que c'est quand même surprenant de voir à quel point, pour beaucoup d'artistes historiques, mais même encore presque contemporains, on a tendance à dire, quand il n'y a pas de preuves de l'homosexualité, que cette homosexualité n'existe pas. Comme s'il fallait des preuves écrites, comme si on demandait à tout le monde des preuves de leur sexualité. et on nie la part homosexuelle de plein d'artistes comme si c'était infamant. Et voilà, donc moi c'est ça qui m'a intéressé beaucoup dans le travail de Derek Jarman et dans ce qu'il fait notamment sur le Caravage, mais sur plein d'autres artistes, sur Shakespeare également, sur le philosophe Wittgenstein, sur le roi Édouard II d'Angleterre, enfin ramener cette dimension homosexuelle de leur vie qui a été exclue d'histoire.
Et c'est surtout un travail à travers le temps, tout du moins essayer de pister des éléments, finalement on pourrait dire des éléments, des tendances queer insoupçonnées à l'époque et certainement pas nommées de cette façon-là, quoi.
Tout à fait.
Et c'est pour ça que on peut. Je me suis fait la réflexion un peu dans la façon dont vous avez, avec tous les deux, avec Nathalie Battus, construit le documentaire radiophonique de France Culture. C'est finalement de se dire que c'est une sorte de ping-pong queer entre les deux artistes et que vous avez réussi à faire écho l'un à l'autre à travers et sa recherche de l'homosexualité dans les grands personnages. Et maintenant, si on s'intéresse un tout petit peu effectivement à Barbara Hammer, c'est cette espèce de volonté effectivement de mettre le regard lesbien en avant et les luttes lesbiennes. Je pense notamment à sa compagne Floris qui a été très présent aussi dans ses œuvres.
Tout à fait, tout à fait. En fait, ce qui est très fort chez Barbara Hammer, c'est que c'est une femme qui n'avait pas de formation de cinéaste quand elle s'est lancée dans le cinéma expérimental au début des années 1970 et qui part peut-être parce qu'elle n'a justement pas une cinéphilie ou le poids de la cinéphilie ou les poids de l'histoire du cinéma sur les épaules, elle se révèle d'une immense liberté et elle va se rendre compte tout d'un coup que la représentation de la sexualité des lesbiennes par des lesbiennes, ça n'existe pas au cinéma. Il n'y a aucun film qui montre la sexualité lesbienne filmée par une femme. Et donc, c'est ce qu'elle va faire. Avec une audace folle, elle va filmer sa propre sexualité, elle va filmer son propre désir, elle va affirmer son identité, et donc l'identité de plein d'autres femmes qui avaient été jusque-là oubliées par l'histoire du cinéma. Et puis petit à petit, après ces films expérimentaux, ces films très sexuels, très sexués, elle va se rendre compte que son histoire n'est pas la seule à être invisibilisée, et que celle aussi de plein de lesbiennes dans l'histoire, de plein d'artistes lesbiennes, de plein de photographes, de peintres, d'écrivaines lesbiennes ont été invisibilisées. Et de la même manière que Derek Jarman, sous d'autres formes cinématographiques, mais avec la même volonté, elle va s'acharner à remettre ça en avant, à montrer que des femmes lesbiennes ont été des créatrices et que en excluant cette part d'elles-mêmes, on les coupe de leur œuvre, on exclut de leur œuvre une dimension très importante.
Alors en fait, tu exprimes là tout simplement ce qu'elle nomme un peu une forme d'étouffement des sexualités, et notamment à l'égard des lesbiennes, et c'est ce qu'elle décrit notamment à travers son œuvre, un de ses films, Mon Antonia, c'est ce qu'elle crée, c'est ça.
Et donc elle est vraiment très enfin l'un et l'autre, je trouve, sur cette question-là notamment, mais sur plein d'autres aussi, sont dans une démarche qui est très proche l'une de l'autre et qui font vraiment écho, lui pour les hommes gays, elle pour les femmes lesbiennes, redire que notre histoire a été oubliée par l'histoire officielle, l'histoire qu'on apprend dans les écoles. Enfin moi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je suis toujours frappé de voir que on apprend à l'école qu'on connaît toutes les maîtresses de Victor Hugo, mais qu'on nie le fait que Voltaire, que Rimbaud et Verlaine aient été allemands et amants. Donc voilà, je trouve que c'est il y a un deux poids deux mesures qui devient à un moment donné insupportable. Et que ce soit Barbara Hammer ou Derek Jarman, ils ont cette volonté-là chevillée au corps et toute leur œuvre en est marquée.
Alors on va revenir à Derek Jarman, mais auparavant j'ai été assez amusé de cette partie du doc sur le gros plan concernant l'origine du monde et le déjeuner sur l'herbe, un déjeuner très lesbien et sexuel. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, parce que c'est assez rentre dedans finalement, hein, sans mauvais jeu de mots et sans image sexuelle ou quelque chose, mais finalement ça exprime les choses très fortement, quoi.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un film de Barbara Hammer qui s'appelle Multiple Orgasme, que décrit à l'antenne Elisabeth Lebovici, qui est une grande historienne de l'art, qu'on a interviewé pour ce documentaire, qui parle très bien du travail de Barbara Hammer. Et Elisabeth, effectivement, décrit ce film dans lequel, alors il y a deux films, il y a Multiple Orgasm, dans lequel c'est vraiment l'origine du monde, quoi. C'est Barbara Hammer qui montre, qui filme sa vulve en gros plan. Et puis il y a un autre film qui est Night Tactics, dans lequel c'est une sorte effectivement de déjeuner sur l'herbe lesbien avec une ronde de femmes nues qui dansent dans l'herbe. Donc effectivement il y a cette dimension là qui est assez drôle parfois. Je trouve qu'il y a des moments très drôles dans notre documentaire, je trouve, justement dans l'approche de ces œuvres et dans la façon dont ces œuvres aujourd'hui résonnent en nous, quoi. Et je trouve que ce que fait l'analyse, le décryptage qu'en fait Elisabeth Lebovici, de la même manière que celui que fait le journaliste queer Cyril Cerf-Maupois sur le travail de Derek Jarman, est vraiment très éclairant et très riche.
Alors là, j'ai été sidéré justement par son analyse, hein, Cyril Cerf-Maupois, c'est cette forme d'explication très, très libre, mais à la fois audible, sur l'affaire de la libération sexuelle, et finalement, il introduit cette... déjà à cette époque où on n'en parlait pas spécifiquement, la libération du genre. Il a tout un cheminement qui est hyper intéressant à ce sujet.
Oui, tout à fait. Mais c'était l'idée dans ce documentaire, c'était effectivement de faire revivre ces deux personnalités, Jarman et Hammer, à travers leur voix, des extraits de leurs interviews, de conférences qu'ils ont données, de documentaires, à la fois aussi avec des extraits de leurs films, et puis d'avoir deux voix d'aujourd'hui, deux personnes qui sont très touchées par leurs œuvres aujourd'hui, qui connaissent bien ces œuvres et qui ont un regard très contemporain qui ramène ces travaux qui ont, pour certains d'entre eux, 40 ou 50 ans, d'autres sont plus récents, mais qui ont quand même un certain temps, une certaine histoire, une certaine épaisseur historique, de les ramener à aujourd'hui. Et avec les voix d'Elisabeth, les propos et les analyses d'Elisabeth Lebovici et de Cyril Cerf-Maupois, on arrive vraiment effectivement à se raccrocher à aujourd'hui, de montrer la modernité, l'antériorité des travaux de Hammer et Jarman, et comment ils font écho à nos problématiques d'aujourd'hui, et notamment effectivement à cette problématique queer qui est vraiment centrale aujourd'hui, et à ces problématiques d'identité, de visibilité, d'inscription dans l'histoire, qui sont très très contemporaines.
Alors nous recevons, je vous le rappelle, Didier Roth-Bettoni, grand spécialiste, journaliste du cinéma, historien, et notamment des films LGBTQI, et on parle de son documentaire diffusé sur France Culture, Derek Jarman et Barbara Hammer, une rencontre finalement qui n'a jamais eu lieu, mais qui est finalement la teneur de ce documentaire. On peut quand même dire, Didier, que ces deux cinéastes ont fait partie et ont toujours eu un regard minoritaire à partir de 1970 et jusqu'à leur mort. Mais à leur image, chacun, ils parlent des luttes, de l'activisme sida, de l'homophobie, et pour Barbara Hammer, de son cancer, parce qu'elle s'est aussi filmée dans cette situation-là.
Oui, tout à fait. Ça fait aussi partie des échos que je trouve entre les deux œuvres. C'est que Derek Jarman, jusqu'à la fin, il va travailler autour du sida qui est en train de le ronger, autour de cette mort qui approche et contre laquelle il reste debout pendant toute sa vie, et contre laquelle il fait des films, une maladie contre laquelle il continue à faire des films jusqu'à la fin. Et il donne des interviews jusqu'à la fin qui sont absolument bouleversantes. Il y a un extrait d'une d'entre elles dans le documentaire qui est vraiment très forte. Il a quasiment plus de voix, il est vraiment... c'est quelques semaines avant sa mort qu'il parle encore, et avec une
moi je dirais une lucidité
vraiment très belle, et une très grande intensité. Et Barbara Hammer, de la même manière, contre le cancer, elle va s'engager, elle va faire des films sur son cancer, et puis elle va s'engager dans le combat pour le droit à mourir dans la dignité. Elle va être très active, elle va faire des conférences jusqu'à la fin, elle aussi, pour parler de ça, pour parler de sa maladie, et surtout de ce droit à mourir dans la dignité. Elle va être elle également très créative, si finalement la maladie ne va pas affecter leur capacité créative et leur capacité militante. C'est ça aussi que je trouve très beau chez l'un et chez l'autre.
Alors, il nous reste 2 petites minutes, donc on invite tout le monde à retrouver le podcast sur le site de France Culture, donc Derek German et Barbara Hammer, une rencontre doc de Didier Rodbetoni et Nathalie Battus. Juste profiter des quelques instants impartis qui nous restent pour prendre des nouvelles de ton actualité. Tu as déjà un projet, prochain doc, un autre festival à aller visiter, très sollicité, parce qu'on sait que tu traverses toute la France finalement.
Ben oui, oui, ben je vais à Marseille la semaine prochaine dans le cadre de la grande exposition sur le SIDA qui a lieu également actuellement au MUCEM, et je présente un débat autour du film Jeanne et le garçon formidable en compagnie des réalisateurs Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Et puis voilà, ça c'est le prochain festival, et puis après il y aura normalement un livre en fin d'année qui sera lu aussi autour des questions LGBT.
Et un prochain doc France Culture, pas encore programmé?
Non, là, j'en fais en général un par an, donc oui. Voilà, ça y est, j'ai fait celui de 2022, on attendra un petit peu.
Et
ça prend beaucoup de temps, et ce n'est pas le cœur de mon activité, c'est quand même plutôt d'écrire des livres, mon travail.
C'est ça. Et on rappelle la série de LSD, toujours sur France Culture, qui était autour, effectivement, de la question gay, précédemment, qui doit toujours être retrouvable en podcast.
Oui, oui, qui s'appelait « Quand la création raconte le sida », qui était sur la façon dont l'art, sous toutes ses formes, a représenté la maladie. Et effectivement, elle a 3-4 ans, mais elle est toujours disponible au podcast.
Bon, Didier, on te souhaite une bonne soirée. Un grand merci de nous avoir consacré ces quelques minutes pour nous parler de deux personnes que nous ne connaissions pas, mais finalement qui sont devenues plus proches avec cette présentation. Et puis, on le glisse là, peut-être un prochain festival qui se montrait à Angers, on ne sait pas. Le grand retour de Didier Rodbetoni après des années, il y a longtemps. Merci beaucoup.
Je viens souvent dans la région, donc avec plaisir.
Avec grand plaisir. Ciao, très belle soirée.
Merci à toi aussi. Au revoir.
Au revoir. On pense à nos aînés. On pense à ceux qui sont là. On pense à ceux qui sont en Ukraine. Et partout ailleurs dans le monde qui sont pourchassés, persécutés. Iseut, corps.
Le corps nu sur le sol. Je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux. Pas envie de la retirer. Y'a pas de place pour les fables. Y'a pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol. Relève-toi, faut pas déconner. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Un pardon à mon père. Insolente, je l'étais. Dans les yeux de mon frère. Ouais, des claques, ils sont ébouffés. Sur les joues de ma mère, des rivières se sont écoulées. J'ai ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tout ce bruit dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai
chemin de ma maison. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, ouais. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Et...
récompensé il y a très peu déjà, victoire de la musique. On l'adore et c'est pour ça que nous voulions vous la faire partager ce soir sur Radio G.
G. 101.5 FM.
Et c'est parti. Parti pourquoi, je vous le demande? Eh bien pour notre deuxième invité et un deuxième thème que nous allons filer tout au long de l'émission jusqu'à nous quitter, parce qu'il nous a semblé particulièrement important de revenir sur ce débat que nous avions déjà eu ici même avec d'autres invités sur la question du don du sang. Et pourquoi est-ce que nous y revenons? Eh bien tout simplement que dans quelques jours, le 16 très exactement, va entrer une nouvelle mesure concernant le don du sang et qui va s'appliquer à la catégorie des HSH. Alors si vous êtes fidèle, vous savez de quoi il s'agit, ce sont les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. C'est pour ça qu'on ne parle pas toujours de personnes gays, même si ils se retrouvent évidemment dans cette appellation. Et nous avons invité ce soir quelqu'un que nous connaissons à Quasar, mais que vous ne connaissez pas peut-être, et c'est l'occasion de faire connaissance avec lui. C'est Thomas Linard. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Alors, on t'a demandé de venir échanger avec nous, tout simplement parce que, comme je l'expliquais, nous avons traité de ce sujet, mais toi, au moment de la sortie de l'annonce faite par le gouvernement de cette levée de l'interdiction, alors on va repréciser de quoi il s'agit très exactement, de l'avancée historique à travers les dates de l'affaire du don du sang, mais toi, tu as réagi, et peut-être, on va le dire, à contre-courant d'un certain nombre de positions, et ce qui nous intéressait, c'était de discuter avec toi du pourquoi, du comment de ta position et de tes explications. Alors, toi, associativement parlant, aujourd'hui, tu n'as plus spécialement de mandat comme je t'ai connu il y a de nombreuses années à Paris, sauf peut-être sur un thème qui n'est pas du tout celui-ci, mais sur le domaine de la filiation, de la PMA et de la famille. C'est bien ça?
C'est ça, oui. Je suis membre de la commission juridique de l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel, une association LGBT parentale, qui n'a absolument pas de concernés. Donc voilà. Là, vraiment, je parle en mon nom de personnel, et c'est le seul mandat qui me reste. J'ai effectivement fait beaucoup plus de choses à une autre époque.
Mais voilà. C'est ça. Alors, on précise quand même que Quasar est très en lien avec les enfants d'Arc-en-Ciel, puisque nous sommes adhérents et les enfants sont adhérents chez nous. Donc voilà, nous travaillons en bonne intelligence. Et nous avions, il y a quelques semaines, Héloïne, justement, qui faisait le point sur la situation dans la visée, justement, du 8 mars, avec l'opération qui a consisté à avoir ce hashtag « pas de miettes » et ainsi de suite, « des droits et pas de miettes ». Voilà, c'est ça. Donc, on revient à la question du don du sang. Donc, toi, tu as réagi, et peut-être qu'il faudrait que toi, de ton regard, tu nous expliques ce qu'il en est très exactement de ce qui va se passer dans quelques jours, à savoir la levée d'une interdiction, et de quelle interdiction s'agissait-il exactement concernant le don du sang de la part des HSH.
Oui, alors peut-être je peux commencer par expliquer... Quel a été mon propre cheminement.
Oui.
Parce que, disons que au départ, j'étais comme beaucoup de gens, je connaissais pas le sujet, et c'est en voyant des amis qui en parlaient et prenaient des positions, et de façon des positions très tranchées en plus, c'était vraiment très net dans un sens ou dans l'autre, pour, contre, et voilà. Donc je me suis dit, bien, faut faut que je m'intéresse au sujet, faut que je le creuse, faut que j'apprenne quelque chose. C'était pas du tout mon domaine. Donc, j'ai lu énormément. J'ai voulu m'y lancer vraiment de sérieusement. C'était déjà il y a quelques années. Et j'essayais vraiment de lire tout ce que j'ai pu trouver, publications scientifiques, en français, en anglais, et de reprendre plein de littérature pour vraiment comprendre de quoi il en retournait. Donc voilà, je n'ai pas de légitimité de particulière, je n'ai pas travaillé des années dans le domaine de la santé ou quoi que ce soit, je n'ai pas de formation médicale, c'est juste que je me suis intéressé au sujet et j'ai essayé de comprendre de quoi il retournait, d'avoir un point de vue qui soit le plus informé possible.
En tout cas, nourri par cette recherche.
Tout à fait.
Et donc ?
Alors, historiquement, ça date de... Peut-être on peut prendre les choses de façon historique pour remettre les choses...
Exact.
Historiques. Donc, le don du sang, c'est plus d'un million, c'est 1 700 000... dons de parents en France, mais depuis 1983, les HSH, comme tu l'as dit, donc les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, qu'ils s'identifient comme gays ou non, sont ajournés, étaient ajournés à vie du don du sang. C'est-à-dire, oui, s'ils avaient eu une relation sexuelle avec un autre homme dans leur vie, ils ne pouvaient plus jamais donner de leur sang. Alors, c'est lié à l'épidémie du VIH. Hein. Et puis donc, à partir de 2016, ça a commencé à évoluer. L'ajournement est passé d'un ajournement à un an, puis à 4 mois. Et là, l'ajournement spécifique concernant les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes va être supprimé le 16 mars, donc dans 6 jours.
Alors, quand tu parles d'un an et de 4 mois, soyons extrêmement précis, c'est-à-dire que tel que c'était conçu et tel que l'interdiction était posée, il fallait l'obligation pour la personne HSH, donc homme, très souvent, et forcément par la définition, oui. Voilà, qu'il ait ce qu'on appelait une abstinence sexuelle complète à 100%.
C'est ça.
Voilà.
Oui,
parce qu'il faut bien comprendre.
La moindre relation.
Voilà.
Oui, la moindre relation. Alors, il y a d'autres ajournements. Par exemple, il y en a une qui sera toujours valable après cette date. C'est ce qu'on appelait avant, justement, l'ajournement des hétérosexuels, parce qu'il n'y avait qu'eux qui étaient concernés. Mais maintenant, ce sera l'ajournement général, c'est l'ajournement de multi-partenariat. Si on a eu plus d'un partenaire dans les 4 derniers mois, on est ajourné aussi.
C'est ça. Et puis, il y a toute la liste des autres ajournements possibles et imaginables.
Il y a d'autres ajournements, voilà. Effectivement, pour les séjours dans certains pays, etc.
Voilà,
etc.
Et tout ça, il y a une liste longue comme le bras sur...
Il y a une liste longue comme le bras, voilà.
C'est ça.
Donc, ce n'est qu'un des ajournements, l'ajournement spécifique pour les HSH qui a été supprimé.
Et en l'occurrence, on ne peut pas dire que la liste longue comme le bras soit une position discriminatoire, c'est bien basé sur des données scientifiques qui ne sont absolument pas contestables. Point.
Alors, on va peut-être avancer un peu plus dans la discussion.
Justement.
Je ne dirais pas ça, parce qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on dise ce qu'il y a derrière, etc.
Oui.
Donc, le principal problème, pourquoi on fait de cet ajournement ? Moi, ce que j'ai beaucoup entendu, parce que j'ai parfois suivi, sans vouloir forcément m'y mêler, parce que c'est toujours très compliqué d'avoir des discussions rationnelles sur les réseaux sociaux, mais ce que j'ai beaucoup vu, de visu des personnes qui ont parlé ou qui ont discuté sur des réseaux sociaux, il y avait un argument qui revenait très très souvent, mais tout le sang est testé, donc je ne vois pas le problème.
Voilà.
Et ça, effectivement, c'est vraiment le cœur C'est, pour moi, c'est le centre du débat, c'est le centre de l'information de qu'il manque. Alors, effectivement, tout don, toutes les plaquettes de sang, tous les dons sont testés. Ça, il y a aucun doute là-dessus, et sont testés même avec des tests auxquels le grand public n'a pas accès. Quand on fait un test de dépistage
labo
du VIH, dans un laboratoire, on n'a pas accès à cette qualité de test-là. Donc ce sont des tests qui sont parmi les meilleurs au monde. Enfin, c'est le top des tests. Il n'y a pas de meilleure technologie au monde. Ça déjà, effectivement, donc, sur ce point-là, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que les tests sont infaillibles. Et c'est ça l'information peut-être qui est la plus importante dans le débat. C'est ça que j'ai fini de ne pas comprendre et que ça m'a éclairé énormément de choses après. C'est que quand vous venez juste de recevoir le VIH dans votre corps, il va commencer à se multiplier. Mais c'est pas instantané. Vous n'avez pas un taux de concentration dans votre sang qui fait que dans toutes les cellules... Il y a le virus. Ça se passe pas comme ça. Et en fait, les tests, alors, ils sont plus sensibles aujourd'hui qu'ils n'étaient il y a 20 ans, mais les tests ont un seuil de sensibilité qui fait que si la concentration n'est pas assez élevée, la concentration de VIH n'est pas assez élevée dans votre sang, ils ne vont pas le détecter.
C'est ce qu'on appelle la période silencieuse.
Oui, ce qu'on appelle période silencieuse ou fenêtre silencieuse. Alors, chez la plupart des gens, ça dure juste quelques jours. C'est très rapide. Hein. Ça dure vraiment pas très longtemps. Le problème, c'est que sur 1 700 000 dons, on ne peut pas se permettre 1% d'erreur ou même 0,1 ou même 0,01. Ça fait encore beaucoup trop. Et donc, il y a certaines personnes... qui, on ne sait pas pourquoi, ou en tout cas on le constate, on fait des recherches là-dessus, mais enfin, qui ont une incubation plus lente. Ça peut mettre plusieurs semaines. Le virus évolue très très lentement de chez elles. Elles peuvent le transmettre à autrui, spécialement par un transfert de sang, mais chez elles, le taux de concentration évolue très très lentement. Donc, ce sont des cas rares, mais bon, voilà, de s'y constater, de tant mieux pour elles, mais enfin, voilà. Et c'est pour ça, à cause de ces personnes-là, on va établir une durée beaucoup plus longue, alors qu'on sait que la plupart des gens s'en sont détectés beaucoup plus vite, au bout de quelques jours, 7 jours, pour déjà une très très grande majorité de la population, 13 jours pour vraiment atteindre quasiment presque toute la population, sauf justement les cas de compliqués, enfin, les cas rares, on va établir une durée, on va dire, pendant cette période-là, si vous venez de prendre un risque, si vous venez de recevoir le virus on risque de ne pas pouvoir le détecter. Donc, on va mettre une période d'ajournement.
Alors, on parle de période de contamination, hein, on est bien d'accord, hein, dans un élément de contamination. Oui, voilà, ok.
Oui, voilà. Et parce qu'on pense qu'il y a un risque que le virus passe à travers les mailles du filet, qu'on ne le détecte pas.
Bon. Lors d'un dépistage.
Voilà, lors du dépistage, même si le dépistage est le meilleur au monde. C'est pas la question, on n'a pas la technologie pour faire mieux. Donc, il y a 20 ans, la sensibilité était telle qu'on considérait que, vu le temps que ça pouvait prendre chez certaines personnes, plus une distance de sécurité, enfin, généralement, on double en fait. On considérait que pour certaines personnes, ça fallait 2 mois, donc on doublait, ça faisait 4 mois. Donc, ça explique que beaucoup de durées d'ajournement sont des durées de 4 mois.
C'est ça. D'où
parce
l'explication.
Il y a 20 ans, on en était. Voilà. Maintenant, quand on regarde, par exemple, les études anglaises, parce que les Anglais aussi ont révisé leur durée, etc., on vous dit non, maintenant, la sensibilité des tests est meilleure. On est plutôt à 6 semaines, donc on double pour la sécurité, donc ce serait plutôt à 3 mois. Donc, si on veut vraiment être scientifique et rationnel, il faudra peut-être aussi revoir cette durée de 4 mois et la ramener à 3 mois. Mais bon, c'est pas très très grave. Un mois après, c'est pas l'essentiel du débat. Enfin, ça montre déjà aussi une attitude où on ne fonde pas tout à fait les durées sur des connaissances scientifiques, et donc des connaissances aussi qui sont révisées, qui sont actualisées, etc., mais sur des décisions assez arbitraires. Bon. Alors, une fois de qu'on sait ça, on peut se demander, mais comment ça se fait qu'il y a eu un ajournement qui a été déclaré à vie? Ça n'a rien à voir avec le schmilblick, finalement. Le problème, c'est que pendant un temps, on risque de ne pas détecter, mais au bout de 4 mois, c'est bon. On le sait pour tout le monde, c'est bon. Donc, il n'y avait pas besoin de faire à vie, il n'y avait pas besoin de faire un an. Quand on a ramené l'ajournement d'un ajournement à vie à un ajournement à un an, il n'y avait aucun sens.
Alors justement,
ce que je te propose,
Thomas, c'est qu'on fait, on marque une petite pause et on continue de converser ensemble jusqu'à 21h en parlant de ta position et puis de ces interrogations autour du don du sang. À tout de suite. C'est Mahmoud et Blanco, ils vont représenter l'Italie.
Ho sognato di volare con te, sono bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se il senso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui. Lasciarmi così. Non tocco i brividi. A volte non si esprimermi. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. E ti vorrei rubare un cielo di perle. E pagherai per andar via. Accetterei anche una bugia. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. Tu che sporchi il letto di vino, tu che mi mordi la pelle con i tuoi occhi da vipera, e tu sei il contrario di un angelo, e tu sei come un pugile all'angolo, e tu scappi da qui, lasci così, non toccare i sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherai per andar via, accetterai anche una bugia, e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre, e mi vengo di brividi.
Brividi. Mahmoud et Blanco. Alors, autant vous dire que c'est la chanson Crypto Gay pour l'Eurovision prochaine. Ils représenteront l'Italie. Donc, 2 ans après, Mahmoud est de retour avec Blanco. Alors, si Mahmoud est bien officiellement gay, Blanco, non. Mais ce sont 2 rappeurs italiens qui ont fait sensation au festival de San Remo.
Radio G 101.5 FM.
C'est Quasar on the Air ce jeudi, une fois tous les 15 jours sur Radio G 101.5 à Angers et sur le département du Maine-et-Loire 49. Nous avons comme deuxième invité pour une deuxième partie Thomas Linard, qui est un militant, qui nous a expliqué qu'il était à la commission juridique des enfants d'arc-en-ciel, une association pour les familles homoparentales. Mais là, on a cherché à contacter, à dialoguer avec lui à propos du don du sang, où il avait une position assez intéressante, et il nous a expliqué pendant la première partie qu'il n'y connaissait finalement pas grand chose, mais qu'il s'est beaucoup documenté. Donc Thomas, on te retrouve là maintenant pour finalement poursuivre notre réflexion sur pourquoi cet ajournement à vie et pas ces 4 mois. Qu'est-ce que toi tu en as compris très exactement? Position politique, position scientifique, qu'est-ce qu'il faut en penser?
Bien, en fait, il y a une continuité. Pour moi, il y a une continuité avec ce qui vient d'être fait, c'est-à-dire de la suppression. Il n'y avait pas de rationalité. De rationalité, on l'a vu derrière la position de l'ajournement à un an ou à vie. Puisque le problème qui est posé véritablement, c'est un problème de fenêtre silencieuse, de faillibilité, c'est-à-dire que les tests peuvent échouer à détecter le VIH dans certains dons de sang quand la personne qui fait le don vient juste de recevoir le VIH, ou alors elle est dans un cas rare de personnes qui mettent beaucoup de temps à développer le VIH dans leur corps. Donc, pour moi, je peux sauter de quelques étapes et puis je peux dire tout de suite à la fin, je peux dire de la conclusion. Pour moi, ce qui serait important de faire, c'est arriver à un stade où les gens se disent, je connais le problème, je sais que les tests ne sont pas infaillibles, j'ai pris des risques, je n'ai aucun besoin vital et urgent de donner de mon sang, parce que on n'a pas besoin vital de donner son sang, donc sachant donc que j'ai pris des risques, eh bien je vais passer mon tour de cette fois-ci, je vais m'ajourner moi-même et je donnerai mon sang de la prochaine fois. La prochaine fois, eh bien si jamais j'ai eu le VIH, on pourra très bien le détecter dans mon sang, parce que là il aura eu le temps de se développer, d'atteindre le taux de concentration de suffisant.
Alors là, c'est intéressant. Donc, voilà. C'est intéressant parce que ce que tu es en train de dire, c'est que tout le monde s'autorégule, mais pour s'autoréguler, il ne faut pas avoir l'impression d'être discriminé.
Faut avoir la bonne information.
Voilà. Ouais. Et beaucoup l'ont ressenti comme tel, à juste titre. Exactement. Ou à tort, mais peu importe, ça a été ressenti comme un rejet des personnes LGBT, donc des HSH en l'occurrence. Et est-ce que c'était vraiment une discrimination de ton point de vue?
Alors, très probablement. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je suis tout à fait d'accord qu'on peut avoir une lecture comme quoi c'est une discrimination, c'est tout à fait justifié, mais c'est pas vraiment ça qui m'intéresse le plus. C'est pas pour combattre de l'idée, je la comprends tout à fait, c'est très probablement le cas. Je suis pas dans la tête des personnes qui ont édicté de ces mesures, mais ça m'étonnerait pas. Voilà. Mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois parce que pour moi, il y a une continuité, il y a 40 ans de continuité, finalement. C'est une attitude mandarinale. C'est les professeurs de médecine qui, plutôt que d'expliquer et de dire, écoutez, notre science est faillible, elle peut faire des erreurs, elle n'est pas toute puissante, donc les tests ne sont pas infaillibles, vous devez vous-même vous réguler vous-même, parce que à cause de cette faillibilité de la médecine, de la science médicale, on ne peut pas prévoir de certains cas. Plutôt que de faire ça, ils ont froncé les sourcils et ils ont pris une grosse voix, et donc interdiction à vie. Et après, ça a été interdiction à un an, et c'était tout autant irrationnel, et c'était toujours aussi infantilisant. Plutôt que donner la bonne information, on a considéré que le public était comme des enfants. On pouvait pas leur faire confiance, on pouvait pas leur donner une information et se dire, quand on vient de donner son sang, c'est pas pour compliquer de la vie d'autrui, c'est pour l'aider. Et donc, si on disait aux gens qu'il y a un risque s'ils ne font pas attention à leur propre prise de risque, s'ils ne font pas attention à leur prise de risque, il y a le risque plutôt qu'aider en donnant leur sang, ils compliquent la vie d'autrui. Donc, plutôt que de faire confiance aux gens en se disant le motif est un motif altruiste, donc les gens vont réfléchir et vont prendre les bonnes décisions. Non, on préfère ne donner aucune information, juste faire acte d'autorité et de dire non, c'est interdit pendant un an, interdit à vie. Bon. Mais finalement, ce que j'observe, c'est pour ça que j'ai peut-être un point de vue un peu différent. Ce qui a été fait avec la suppression de l'ajournement spécifique, c'est qu'il n'est pas prévu qu'on donne plus d'informations.
Et c'est bien ça.
Moi, ce que je vois un peu,
c'est ça.
Voilà. Moi, ce que je vois, c'est ça. Moi, ce que je vois un peu partout, c'est que ça y est, une discrimination a été levée. Donc maintenant, c'est open bar. On peut aller donner son sang sans problème, sans se poser de questions. On n'a pas besoin de se renseigner. On n'a pas besoin de réfléchir. C'est bon. Maintenant, on a l'égalité. Et puis voilà, youpi de tralala. C'est très joyeux. Alors que non, il y a quand même, c'est pas très facile à évaluer, mais on est quand même encore dans une période d'épidémie. On a un tiers des porteurs du VIH à Paris, à peu près. Les chiffres sont pas non plus d'une précision extrême, mais bon, un tiers des porteurs du VIH à Paris qui ignorent leur statut. Et donc non, ce serait bien que les gens, au contraire, et les bonnes informations pour pouvoir se prendre en main et pour pouvoir prendre en main leur santé et prendre en main la santé, les risques pour la santé d'autrui, donc agissant d'adulte. Et pour ça, il faut pas envoyer uniquement le message « Youpi, une discrimination a été abolie », mais que la science médicale n'est pas infaillible. C'est à nous aussi de documenter sur les risques, sur les rapports bénéfices-risques, enfin sur tout ça. C'est même au-delà du don de du sang. C'est une attitude à avoir dans tout le domaine de la santé, avoir une attitude plus responsable, plus adulte, moins des enfants envers les porteurs de la science, mais de nous intéresser à notre santé et aux bonnes informations pour nous prendre en main. Et faire en sorte qu'on ne soit pas un danger pour soi-même et pour autrui.
Alors je fais un pas de côté par rapport à ta position et que je partage et que associativement on partage aussi. C'est pour ça qu'on t'invitait, pour tout dire. Il y a quand même quelque chose d'inquiétant, c'est-à-dire que dans un temps, il y a ce 16 mars, comme tu l'évoquais, la levée de l'ajournement à 4 mois qui était en place. Mais surtout et encore, ça tombe au moment où on a communiqué les chiffres au 1er décembre 2021, donc c'était pas hier, mais enfin c'est quasiment hier historiquement, où on a constaté, Covid oblige, une diminution du nombre de contaminations, mais parallèlement une diminution du dépistage. Ça veut dire que dans l'idée des spécialistes, il y a très probablement, à cause du VIH et de tout ce qui nous a chamboulé avec les confinements, les reconfinements et ainsi de suite, l'idée que, en réalité, il y a toujours des gens contaminés, mais encore moins de gens qui se dépistent et qui vont, eux, ne pas savoir qu'ils sont contaminés et qui sont, parce qu'ils ne sont pas sous traitement et donc indétectables, des personnes forcément potentiellement contaminantes. Et à ce moment-là, dans le circuit du don du sang, ce sont peut-être des personnes qu'on va retrouver avec toutes les problématiques du test et de la fiabilité dont tu parlais. C'est tout de même un poil inquiétant quand même, cette rencontre de deux temps totalement opposés, l'un qui veut ouvrir et donner le signal. Est-ce que ce sont les élections présidentielles approchantes qui ont poussé à cette réalité? On ne sait pas, ça n'a pas été vraiment dit et prouvé, mais quand même, cette réalité de manque de dépistage et de risque que ça représente, au point que la Haute Autorité de Santé a émis une alerte, justement, sur la pratique des dépistages. Je parle des IST et des hépatites aussi, mais spécifiquement VIH, quoi, véritablement. Mmh. Et ça inquiète.
tout à fait. Alors, il faut comprendre aussi que il y a deux choses. Il y a la prévalence et il y a de l'incidence.
Alors, faut expliquer. Hein.
Maintenant, voilà. Je vais faire très vite. La prévalence, c'est le nombre de personnes qui a le VIH, et l'incidence, c'est les nouveaux cas.
Voilà.
La prévalence, finalement, c'est pas le gros problème, parce que les personnes au bout de 3 mois maintenant, enfin 3-4 mois, lors du test, elles vont être détectées. Même si elles connaissent pas leur statut, elles vont être détectées. Le problème, c'est donc les nouveaux cas.
C'est ça.
C'est les personnes qui viennent de recevoir le VIH il y a quelques jours ou quelques semaines pour les cas les plus rares. Mais donc c'est les nouveaux cas. Et effectivement, les nouveaux cas, il y a un taux d'incidence qui est encore très élevé dans la population, y compris de chez les jeunes, par exemple, ce qui me choque de beaucoup.
Ou les publics, par exemple, migrants, qui ont un risque très fort, au bout de 4 mois, d'arriver sur le territoire national, d'être contaminés. En tout cas, c'est une moyenne, alors qu'ils sont arrivés séro-neg. Parce que, voilà, une situation compliquée, une liberté sexuelle qui se vit plus facilement qu'au pays d'origine, parce que non persécuté, c'est le risque. Donc, dans la minute qui nous reste, comment est-ce que tu vois, toi, l'avenir de cette question du don du sang, travail associatif, répéter cet argument, ou nationalement essayer de porter le faire quelque part auprès du ministère pour plus d'informations?
Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les circuits. J'y suis encore moins de maintenant. Mais je pense que, en règle générale, et ça, c'est vraiment pour moi, pour toutes les questions de santé, il faut arriver à ce que les gens aient une meilleure information et qu'ils se prennent en main. Il faut arriver à une attitude plus adulte, à la fois à ce que les patients soient moins traités comme des enfants, mais comme des adultes, et aussi que les gens eux-mêmes s'informent, se documentent et aillent plus loin que les effets d'annonce et comprennent les enjeux pour leur santé et pour la santé d'autrui, les personnes de leur entourage, les personnes de qui leur sont chères, leurs proches, voilà. Et je pense que ça déjà, c'est la bonne attitude.
D'accord. Bah, c'est notre message, en tout cas, ce soir. Et c'est pour ça qu'on voulait te recevoir et t'écouter avec attention, ce qui a été le cas pendant ces presque une demi-heure. On te remercie beaucoup, Thomas. On te souhaite une bonne continuation.
Merci à vous.
Sur la filiation pour la réflexion. Et on te dit une prochaine.
Merci.
Avec plaisir. Ciao.
À une prochaine. D'accord.
Radio G. 101.5 FM.
Bon, allez, on ne referme pas l'émission sans faire un petit tour rapidement sur l'agenda des prochaines activités de Quasar, le centre LGBTI+ d'Angers, l'adresse 15 rue de Jérusalem, entre le boulevard des Deux Croix, très en travaux, évitez ce côté-là, passez plutôt par l'avenue Pasteur, ce sera plus prolifique. Les permanences, chaque samedi, 17h-19h, le 12, le 19, le 26 mars, Transat, le groupe de parole, part pour et avec les personnes transgenres, à genre et non-binaires, samedi 19 mars de 15h à 17h. Le Corévi, une réunion plénière sur femmes et VIH, le jeudi 24 mars, nous y participerons. Prochaine émission de Quasar en Zière, le 24 mars, de 20h à 21h, ici même, 101.5, vous connaissez. Et puis, notez bien, vendredi 25 mars, si vous êtes intéressé pour faire de l'accueil, découvrir comment ça se passe, eh bien, venez rencontrer Quasar, et aussi Contact 49, puisqu'il y sera question d'une sensibilisation à l'accueil et à l'écoute. Comme ça file vite, une heure, avec des invités passionnants. On a parlé cinéma avec Didier Roth-Bettoni à propos de son documentaire radiophonique qu'il a diffusé sur France Culture récemment au mois de février. Et puis Thomas Linard à l'instant sur la question du don du sang. Voilà, on ne s'est pas ennuyé. En tout cas, j'espère que vous aussi. Passez une excellente soirée. Restez attentifs sur l'actualité ukrainienne. Et on vous souhaite vraiment une très 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 belle soirée, et on vous embrasse et on vous dit à dans 15 jours. Ciao, bye bye, et portez-vous super bien.
Radio G 101.5 FM.